Alors, nous sommes juste entre Noël et le premier de l'an. Et je sais que quand j'étais enfant, on fonde beaucoup d'espoir comme ça dans les fêtes de famille. Et puis quand on lit les vies, ce n'était pas toujours à la hauteur de ce qu'on espérait. Et cette année, tout le monde était prévenu que le coronavirus était invité à la fête et que ça allait être différent. J'avais l'objectif ce matin qu'on regarde comment Jésus il vivait les fêtes, qu'est-ce qu'on peut avoir de son exemple et de son enseignement par rapport aux fêtes. Alors, j'ai pas trouvé de passage où il parle vraiment de cela. Donc, on va prendre le passage de Jean chapitre 2 et on va voir un petit peu comment le sens de ce passage et l'enseignement annexe qu'on peut voir sur la façon de gérer et de vivre les fêtes. Alors, j'avais quelques questions maintenant. Qu'est-ce qui fait qu'une fête est appréciée? Qu'est-ce que c'est qui, pour vous personnellement, qu'est-ce qui fait qu'une fête est appréciée? Qu'est-ce qui fait qu'une fête est réussie? Qu'est-ce que vous aimez trouver quand vous allez dans une fête? Je vous laisse la parole. Peut-être que vous avez des réflexions, des choses qui vous viennent à l'esprit comme ça. Ça va nous aider après pour la suite.
Il y a de la joie.
La joie. Mmh. Ça, c'est dans une fête, on aime trouver la joie. Oui, être réunis avec les personnes qui nous sont chères, qui ne manquent personne, que tout le monde soit là, qu'on soit au complet. Et ça, c'est pas possible. Il y a toujours. Mais quand on est tous réunis, et c'est pas facile, plus les familles sont grandes, plus les groupes sont grands, plus c'est difficile de se réunir. Il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit.
En règle générale, quand il y a une fête, il y a plus vraiment un bon repas.
Un bon repas? Ben ouais, ça c'est. Je sais pas pourquoi ça va avec, mais quand il n'y a pas de repas, il y a un goûter au moins, ou il y a quelque chose, il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Ça fait partie de la fête.
La fête, ça peut aussi être, on s'associe à la joie de quelque chose en particulier. Je pense pour un mariage, on se réjouit avec un couple ou un couple tout court qui s'engage, qui s'est retrouvé, qui s'est trouvé.
Il y a un objectif, le fait d'être rassemblé, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous rassemble. On se rassemble autour de quelque chose qui est commun, qu'on partage, et qui fait le sujet de joie, généralement. Le sujet de joie, il vient du fait d'être ensemble, mais il vient d'un sujet qui nous rassemble aussi. Bon, on a déjà pas mal de choses avec ça. Alors, on va regarder maintenant le texte de Jean, chapitre 2. Je vais faire la lecture dans la seconde 21. Jean, chapitre 2. On va regarder ce qui concerne premièrement l'annonce de Cana.
Oh, j'ai déjà des lunettes.
Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Le troisième jour, c'est le troisième jour après le moment où Jésus a rencontré les premiers disciples. C'est la rencontre avec les disciples qui est que Jean fait la narration juste avant. Et là, on est trois jours après. La mère de Jésus était là et Jésus fut invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « remplissez de ces jarres et les remplir jusqu'à bord. Puisez maintenant leur liquide et apportez-en à l'organisateur du repas. Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où il venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, comme moi, grand-chose de la façon dont pouvaient se dérouler les mariages du temps de Jésus, dans l'Antiquité, mais on apprend quelque chose ici, c'est que le vin était important. Hein. Le vin était important. Beaucoup d'invités, beaucoup de vin, beaucoup de joie. C'est un petit peu l'équation hein, qu'on connaît même encore aujourd'hui. On pourrait rajouter aussi beaucoup de dépenses. Hein, si vous avez déjà organisé des fêtes et des mariages, ben vous savez qu'il faut regarder le budget. On voudrait bien inviter tout le monde, on voudrait bien que tous les amis, tout le monde soit là. Mais voilà, il faut faire attention au budget. Hein. En tout cas, Marie et Jésus ont été invités. Et très généreusement, les cinq nouveaux amis de Jésus aussi. Hein. Il y avait André, il y avait Pierre, il y avait Jean, il y avait Philippe, il y avait Nathanaël, que Jésus connaissait depuis quelques jours. Et ils ont été invités aussi. Jésus est cependant apparu dans ce texte comme détaché de la fête. Il est détaché de la fête. Quand Marie le sollicite pour trouver une solution pour le manque de vin, il lui répond en quelque sorte, c'est pas mon affaire tout ça. Et puis non plus tu me demandes des choses, mais moi j'ai pas de compte à rendre de ce côté-là. Jésus, s'il est détaché de la fête, il est quand même à la fête. Il est quand même là présent. Hein. Son cœur n'est pas dans les boissons, dans ce qu'on doit pouvoir servir. On imagine Jésus très sombre. Et il n'est pas là non plus, comme on dirait, pour faire des miracles, pour faire de l'animation non plus. Il est un petit peu détaché de la fête. Mais Jésus est présent à la fête. Il est quand même présent. Il est présent pour qui ? Il est présent pour sa maman. Il est présent pour le couple, les mariés qui ont invité. Et il est présent également pour toutes les convives qui sont là. Et qui, au moins, du moins celles qui ne se sont pas déjà enivrées, eh bien, elles vont pouvoir déguster un millésime de grand cru que Jésus va apporter. Hein. Jésus donc honore la foi de Marie, hein. Faites tout ce qu'il vous dira. Il vient au secours de l'époux, hein, qui va être bien embarrassé, il n'y a plus de vin. Et donc il fait également un cadeau aux convives. Il y a deux miracles qui sont bien connus de Jésus. Je ne pense pas que les gens qui nous entourent, quand ils pensent à Jésus, ils voient comme quelque chose de très marquant le fait d'avoir guéri des malades, le fait d'avoir chassé des démons, le fait d'avoir même fait relever des personnes de la mort. Mais là, il y a deux choses qui marquent vraiment, c'est que il a changé l'eau en vin, ça, personne d'autre l'a fait. Et il a marché sur nous. Dans ces deux choses-là, c'est des choses qui marquent, je crois, nos concitoyens, hein, l'imaginaire collectif. Et Jésus, donc, au noce de Cana, fait un cadeau de 600 litres. 600 litres de bon vin. Quelles étaient les personnes qui étaient cependant les plus importantes pour Jésus à ce moment-là? Je ne crois pas que c'était l'époux, je ne crois pas que c'était sa maman, je ne crois pas que c'était les gens qui étaient là. Les personnes les plus importantes pour lui, c'était ses disciples. C'était ses disciples. Et le verset 11 soulève. Il écrit, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Et là, ce que Jésus cherchait, je pense par-dessus tout, c'était que ses disciples croient en lui. Les personnes les plus importantes aussi, c'est peut-être nous. Nous aussi, nous sommes comme les disciples qui étaient là spectateurs de tout ce qui se passait. Nous aussi, nous sommes spectateurs, placés à 2000 ans de ça. Nous, en lisant cette scène, nous pouvons être là, nous aussi, comme spectateurs. Et Jésus a aussi fait cela pour nous. L'apôtre Jean écrit à la fin de son évangile, « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Donc, dans cette fête, Jésus, l'objectif premier, c'est que les personnes croient en lui, et particulièrement, tout spécialement, ses disciples. Hein. Il ne va pas voler la personne centrale de la fête, c'était l'époux. Quand il fait la multiplication de vin, eh bien, qui est-ce qui va recevoir l'honneur? Ce n'est pas lui, c'est l'époux. L'ordonnateur le vin félicite l'époux. Et il est absolument dans l'ignorance du miracle de Jésus. C'est quelque chose qui est très particulière aussi dans ce passage qu'il faut souligner. Jésus n'a pas cherché à attirer l'attention sur lui pendant cette fête. Mais il a honoré celui qui l'avait invité. Un autre passage maintenant, la suite, c'est Jésus qui est à la fête de Pâques. Et cela se passe peu de temps après, et on enchaîne d'une fête à l'autre. Dans notre texte ce matin, je vais lire la suite. Donc, Jean chapitre 2, la suite du chapitre. Après cela, verset 12, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères, ses disciples, et ils y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, des brebis, des pigeons, des changeurs aussi. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvèrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on leur rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Alors, la fête où Jésus se trouve, c'est ce qui ressort du texte, c'est vraiment ici qui occupe tout l'espace de notre texte. C'est le temple. C'est le temple qui est au centre de la préoccupation de Jésus à cette fête de Pâques. Le temple sert à représenter la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et c'était un lieu sacré, un lieu saint. Et à quoi pouvait-il ressembler? Alors, à Jérusalem, il y a une très belle maquette qui représente la ville au 1er siècle. Ça s'appelle la maquette Omina, qui est au musée de Jérusalem. Et donc, il y a une reconstitution du temple, de toute la ville qui l'entoure. Donc, le temple est ici. Donc là, la porte est du côté est, et au nord, donc ici, il y a la citadelle, là où se trouvaient les Romains, et au sud, ici, les bâtiments qui servaient au Sanhédrin pour se réunir, et également, c'est là qu'il y avait les endroits pour faire les bains rituels, les ablutions, pour se rendre, pour s'approcher de l'Éternel, pour se purifier. Donc il y a une grande enceinte tout autour. Alors c'est Hérode qui avait construit tout cela. Ça fait 400 mètres carrés, ça fait quand même 16 hectares. Alors ça devait être quand même immense. Et c'est vrai que pour réunir les Israélites, de tout Juda, des environs, et qui venaient du monde entier, il fallait vraiment beaucoup de place, et c'est sans doute pour cela que le temple qu'avait bâti Zorobabel, le second temple, avait été complètement remanié, et peut-être avait-il été complètement reconstruit. Donc, le temple est sur les dimensions qu'avait donné Salomon, mais il avait été largement orné à l'intérieur, à l'extérieur. C'est une marbre blanc, il y avait des dorures tout autour du toit, et les historiens juifs, Flavius Joseph, en fait une description, bien sûr, grandiose. Donc le temple avec... il y avait 3 parvis, dont le grand parvis qui était le parvis des païens, le parvis des femmes aussi, et le parvis d'Israël qui était tout autour du sanctuaire proprement dit. Donc le temple de Salomon, lui, n'avait que 2 parvis, mais là, ce temple-là en avait 3. Et donc où se trouvaient les marchands, les marchands se trouvaient dans le grand parvis, le parvis des païens. Le parvis des gentils. Et on peut deviner ici le mur de séparation qui séparait l'endroit où pouvaient aller les non-juifs et l'endroit où il ne fallait pas qu'ils dépassent, ils ne pouvaient pas s'introduire dans les autres parvis. Ici, le parvis des femmes, tout le monde, tous les juifs pouvaient y aller. Et dans le parvis d'Israël, il n'y avait que les hommes qui pouvaient y aller. Ils avaient organisé ça de cette façon-là. Et donc, il faut imaginer, on peut imaginer les, Les marchés tout autour, on est proche de la fête de Noël. Là, vous voyez, encore Noël est passé, mais il y a encore un marché, nous, chez nous, à Figeac, ici, sur la place de la Halle. Et voilà, beaucoup de stands. Il fallait des animaux pour les sacrifices. Il demandait tout ce dont on pouvait avoir besoin était vendu ici, dans le temple. Le paradis des païens. Et donc Jésus, on le voit en colère. On voit Jésus en colère. Pourquoi est-il en colère? Eh bien, parce que le parvis des païens ressemble à un marché, en fait. Il ressemble à un marché. Qui est responsable de la présence des commerçants? Bien sûr, il y a les marchands eux-mêmes. Hein. C'est bien, hein, c'est le commerce, c'est la vie, c'est le business, c'est leur travail. Et donc, les commerçants, bien sûr, sont responsables d'être là. Il y a aussi les responsables religieux, les chefs qui permettent cela. Ben, ils touchent un petit peu d'argent, hein, au passage. Et ils les taxent pour avoir le droit d'être là. Et parce que c'est un endroit privilégié, très bien placé. Et qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? Ben, on peut supposer qu'ils ont de très bonnes raisons de collecter ainsi de l'argent. Le temple, au moment de notre texte, a commencé d'être rénové par Hérode le Grand, il y a 46 ans de cela en arrière. Les travaux n'étaient pas terminés. Ils étaient encore en train en cours d'ornement. Le temple n'était pas parachevé comme on le voit sur cette image. Ça, c'est ce qui représentait quelques années, quand il était terminé, juste quelques années avant sa destruction. Il a eu très peu de. Il est resté très peu de temps dans l'état final. Donc, les responsables juifs religieux étaient responsables de ça. Et également, ben, les Israélites eux-mêmes, parce qu'ils venaient acheter. S'ils n'avaient rien acheté, il n'y aurait pas eu de commerçants, bien évidemment. Et pourquoi ils achetaient? Ben, je ne sais pas, c'était pratique, c'était sur place. Et donc, quand on montait au temple, on n'avait pas à s'inquiéter. C'était la fête de Pâques, il fallait avoir l'agneau pour le sacrifice. Et ben là, on trouvait tout ce qu'il fallait dans le parvis des gentils. Et Jésus donc est scandalisé par cela. Comment les païens pouvaient-ils s'approcher du Dieu trois fois saint? Comment pouvaient-ils prier au milieu d'une place de marché? Et c'était un lieu saint. Le temple était considéré comme un lieu saint. Et la sainteté de Dieu se trouvait bafouée par la présence de ce commerce et par l'obstacle qui était fait aux païens pour s'approcher du seul vrai Dieu. Alors, pour cette fête de Pâques, Jésus est en colère. On le voit également comme pour la fête de Cana, un certain détachement de Jésus. Jésus lui reproche, les Juifs ne reprochent pas à Jésus pourquoi il chasse les vendeurs du temple. Il n'y avait rien dans la loi sur lequel il pouvait s'appuyer pour empêcher Jésus de chasser les vendeurs du temple, mais il lui demande de quelle autorité tu as pour faire ça. Et donc Jésus va répondre par cette phrase énigmatique, incompréhensible. Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Jésus ne prend pas la peine de leur fournir plus d'explications sur l'autorité qui était la sienne. Et ils vont rester là dans l'expectative. Alors, nous qui avons le recul, nous savons qu'en fait, avec l'arrivée de Jésus, la présence de Dieu au milieu de son peuple, c'était lui-même. C'était lui-même. Il est, en Matthieu 12, 6, plus grand que le temple. Il est à la fois le Fils de Dieu et le serviteur de l'Éternel. Il est à la fois le roi d'Israël, le prophète de l'Éternel et le souverain sacrificateur. Il est celui qui offre le sacrifice et il est le sacrifice lui-même. Il est celui qu'on adore et celui qui suscite et permet l'adoration. Alors, il est tout. Et les juifs qui sont là ne sont rien. Les chefs devant lui ne sont rien. Et il ne leur doit rien. Il est écrit également que le peuple a cru en Jésus quand ils ont vu les miracles. Mais ce même peuple, à une prochaine Pâque, vont dire crucifie-le. Crucifie-le. Ils seront d'accord pour que Jésus soit condamné à mort. Jésus ne se fie pas à eux. Littéralement, il ne croit pas dans les hommes. Il ne croit pas dans les hommes. Croire en Jésus seul. Lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et ils crurent à l'écriture et la parole que Jésus avait dite. La parole incompréhensible de Jésus avait un objectif qui était toujours orienté vers ses disciples. C'était une parole qui était pour eux, pour que bien plus tard, leur foi en Jésus-Christ soit fortifiée et que leur foi dans la parole de Dieu soit fortifiée également. La priorité de Jésus à cette fête de Pâques est encore ses disciples. Et donc on peut supposer que cela n'a pas changé. Les disciples de Jésus sont toujours sa priorité aujourd'hui. Quelle leçon pour les disciples? Séparer le profane du sacré, croire en lui et à la parole de Dieu, et ne pas croire dans l'homme. La confiance dans l'homme, c'est un piège. Hein? Lorsqu'il y a des élections, on choisit une personne, et quelle est la personne que nous allons choisir, celle en qui nous allons accorder notre confiance? Ah ben, c'est celle qui pense comme nous. C'est celle où on trouve qu'elle est le plus proche de nos propres opinions, de ce qu'on croit nous. Et en fait, placer sa confiance dans un homme se résume souvent pour les hommes à placer la confiance en eux-mêmes, à croire en eux-mêmes. Et l'apôtre Paul, dans la lettre à Timothée, dit que cela va aller en s'accélérant dans les derniers temps, vous savez. Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils se susciteront une multitude de docteurs selon leurs propres désirs. Des personnes qui vont dire ce qu'ils ont simplement envie d'entendre. Et nous autres, les hommes, nous sommes comme ça. Nous aimons écouter ceux qui vivent ce qu'on a envie d'entendre. Et nous devons croire en Jésus, parce que Jésus n'est pas un homme. Jésus est bien plus que cela, il est le Fils de Dieu. Il a donné des signes pour que l'on croie en lui, pour être sauvé. Car Dieu seul peut nous sauver. Et nous ne voulons pas chercher le secours auprès des hommes. Voilà un petit peu dans ces passages de Jean chapitre 2 ce que j'ai pu saisir. Alors, notre sujet de jour, c'était les fêtes. Alors Jésus était à des fêtes, je les ai appelées des fêtes humaines. On a vu son détachement envers le mariage profane et les difficultés qu'il a envers la fête de Pâques qui était sacrée. Les deux ont été pour lui des occasions de conduire les personnes à croire en lui, et tout spécialement ses disciples. Alors, est-ce qu'on peut dire que Pâques est une fête humaine? On l'appelle souvent la fête de l'Éternel, mais en fait, comment Jean appelle cette fête? Il l'appelle la fête des Juifs. C'est la fête des Juifs. Et à plusieurs reprises, dans l'évangile de Jean, on retrouve cette expression de fête juive ou de fête des Juifs. Chapitre 6, verset 4, chapitre 7, verset 2, chapitre 11, verset 55. C'est vrai, parce que c'était une fête qui était interdite, tout simplement aux païens. Cette fête permettait au peuple juif de conserver leur identité, de conserver leur foi dans le Dieu d'Israël, et également de leur donner des moments de joie ensemble. Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et les fêtes de Pâques étaient là, faites pour les hommes. Elles étaient pour les hommes, et pas les hommes pour les fêtes. Et est-ce qu'il y a des fêtes divines? Alors, je ne suis pas monté au ciel pour vous renseigner là-dessus, mais on sait qu'on n'est pas loin de Noël, et que quand Jésus est venu sur la terre, il y a eu une grande fête. Les anges ont fait une fête, ils ont chanté, et ils ont été remplis de joie par rapport à l'incarnation de Jésus. Ça, c'était une fête qui vient de Dieu. Et il y a une autre fête également qui est prévue, quand il concerne le retour de Jésus, quand il reviendra et quand il consommera sa victoire, et ce jour-là, il y aura les fameuses noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 5 à 9. Une voix sortit du trône disant: louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, vous qui craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant: alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et lui, il lui a été donné. Pardon. Et il lui a été donné à l'épouse de se revêtir de fin lin éclatant, pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit: heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors voilà la fête qu'il ne faut pas manquer. Et toutes les fêtes que nous pouvons vivre aujourd'hui sont un petit reflet, simplement, de ce que Dieu prépare dans le ciel. Car on nous évoquait, pour qu'une fête soit réussie, on a dit qu'il fallait être entouré. Vous voyez, il y aura beaucoup de monde. Et on a dit qu'il fallait être complet, et là tout le monde sera présent. Tous les invités seront présents, et qu'il fallait être régalé. Et vous savez, dans les paraboles, Jésus parle de ce festin qu'un roi a fait préparer pour son fils. Et ce festin, il le réserve aux invités, mais il n'y a pas assez d'invités. Sa salle de fête doit être pleine, être unie, être au complet. Avoir un sujet de joie à fêter. Et le sujet de joie, ce sera Jésus-Christ. Ce sera lui qui sera le centre de la joie de tout ce grande fête qui est préparée dans le ciel. Alors nous sommes entre deux fêtes, croyons en Jésus. Nous sommes entre deux fêtes, nous sommes entre la naissance qui est passée et nous sommes les noces, entre les noces qui sont à venir. Alors, si l'on fixe les yeux sur les fêtes humaines qui sont tellement passagères et qui sont un petit peu comme était ce temple, spirituellement, visuellement il était magnifique, mais spirituellement, pour Jésus c'était déjà une ruine. C'était une ruine. Préparons nos habits, les œuvres justes des saints, préparons-nous à cette grande fête. Travaillons à faire fructifier ce que nous avons reçu. Dans les fêtes, il y a souvent des cadeaux. Et dans cette fête de noces, il y aura, je pense, aussi des cadeaux. Quelque chose qu'on voudra apporter à Jésus. Et puis, les œuvres qu'on aura pu accomplir, préparer à l'avance, eh bien, on pourra offrir tout cela à Jésus. On a l'image de ces anciens qui jettent leur couronne aux pieds de Jésus. Alors, si nous sommes invités à des fêtes ou si nous vivons des fêtes, on peut retenir quelques instructions pour nous aider, pour nous orienter. C'est une fête à l'honneur de qui est-ce que c'est que l'on fait. Comme Jésus, ayant le souci des gens qui sont là. Les gens sont plus importants que les repas. N'ayons pas les yeux fixés sur notre assiette, ni dans notre verre de vin. Mais soyons attentifs aux personnes qui sont là autour de nous, parce que Jésus était attentif aux personnes qui l'entouraient. Honorons les personnes qui nous ont invités. Saisissons l'occasion parler et amener à croire en Jésus. C'est quelque chose que l'on peut faire également si l'occasion nous est donnée. Jésus n'a pas cherché à s'adresser à tout le monde quand il était à Cana. Il s'est intéressé à ceux qui étaient autour de lui, il s'est intéressé à ses disciples. Et ça peut être aussi une guide pour nous, quand nous sommes dans un repas, dans une fête, de regarder les gens qui sont tout autour de nous, ceux qui nous voient, ceux qui peuvent nous observer. C'est ces gens-là qu'en priorité, nous avons la responsabilité. En attendant la grande fête de Dieu, nous sommes entre deux fêtes. Croyons en Jésus, servons-le. Inspirons-nous de ce qu'il a fait, de la façon dont il s'est conduit, et je pense que ce sera bien. Seigneur, merci pour l'humanité telle que tu l'as conçue, merci pour tout ce que tu permets, que tu as donné à Israël pour qu'il puisse se rassembler et être heureux de t'appartenir, heureux d'être ton peuple, heureux d'être ensemble, heureux d'être autour de toi. Seigneur, nous aussi nous voulons te dire que nous sommes heureux d'être ensemble, heureux de t'appartenir, heureux de la présence que tu nous fais chaque dimanche, chaque fois que l'on se rencontre. Mais cela n'est pas suffisant, mais tu vas préparer quelque chose d'encore plus grand pour l'honneur de ton Fils. Seigneur, nous voulons être là ce jour-là pour honorer Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Merci pour les dons de la grâce. Merci pour tout ce que tu as préparé. Merci parce que pour ce grand repas, il faudra un habit. Et c'est toi qui donnes cet habit. Ceux qui croient en Jésus sont revêtus de lui. Seigneur, merci de ce que tout a été fait, tout est prêt, et tu cherches encore des invités pour ce grand repas que tu as préparé dans ton ciel de gloire. Seigneur, sois béni dans le nom de Jésus.